La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents français, des patronnes, des patrons qui ont des idées pour faire face à la crise, des acteurs de la société qui prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple, on trouve des solutions, elles sont françaises. Et à mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Crise sanitaire oblige, l'enseignement à distance, c'est une réalité aujourd'hui pour de nombreux élèves. Le CNED, créé en 1939, justement pour pallier la désorganisation liée à la guerre, s'est transformé en quelques jours pour proposer notamment ma classe à la maison. Comment ça se passe? Quels enseignements ont-ils tiré de cette aventure extraordinaire? Le patron du CNED est notre invité jusqu'à 14h.
Elle a une en effet pour lutter contre le décrochage scolaire. Une association bouge dans les quartiers pour accompagner les collégiens qui n'ont ni les parents ni les moyens pour suivre en classe. Cette association s'appelle Zup de Co et son fondateur va nous raconter comment il agit en ce moment en pleine crise.
Quand on pense à l'école, on pense bien sûr aux fournitures scolaires. Parmi les marques les plus connues, il y a Maped. Regardez par exemple votre compas, votre règle. Eh bien Maped, ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1 La France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu planches brutes, des planches pour découper sa charcuterie ou ses légumes. Elles sont 100% françaises. On découvrira le pitch à 13h45.
Et bien sûr, demain au travail, on va appeler Orange, puisque là-bas, on challenge les salariés via une application autour des problématiques environnementales.
Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et on est une fois de plus avec Elisabeth. Très heureux de vous accueillir en direct jusqu'à 14h dans La France bouge. Les confinements successifs, les couvre-feux, on commence tous à bien connaître ces mots. L'incertitude de l'avenir ont entraîné bien évidemment des décrochages en milieu scolaire, des retards aussi pour certains élèves. Alors tiens, justement, comment les acteurs français se retroussent les manches, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour aider les élèves et ne pas les laisser sur le bord de la route? On en parle tout de suite avec notre témoin du jour.
Bonjour Michel Revers-Chombillot.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du CNED. Le CNED est né en 1939 pour pallier la désorganisation de l'enseignement liée à la Deuxième Guerre mondiale. 1200 professeurs y travaillent depuis leur domicile. En tout, ce sont 2200 personnes au Centre national d'enseignement à distance. Au CNED, vous jouez un rôle majeur, notamment et surtout depuis un an, depuis le début de la crise sanitaire. On peut le dire, vous aviez une image un peu vieillotte. La crise vous donne un second souffle. Qu'est-ce qui a changé dans l'enseignement en un an?
Alors, ce qui a changé, d'abord, c'est qu'on était un établissement, vous avez raison, qui était perçu comme un établissement de la marge, un établissement à côté de l'école. Et je crois que maintenant, on est un établissement aux côtés de l'école. Et aux côtés de l'école, ça veut dire qu'on est en capacité de proposer des services, des cours, des parcours de scolarisation à des élèves. Et c'est ce qui s'est passé pendant la crise du confinement, puisque dès mars, on a pu accueillir sur nos plateformes plus de 2 millions de familles, plus de 500 000 professeurs qui nous ont rejoints et qui ont trouvé un CNED réactif, agile, qui était capable de proposer des solutions nouvelles et innovantes.
Oui, hein, donc c'était notamment ma classe à la maison, des parcours pédagogiques pour couvrir les cours de la grande section à la terminale. Vous aviez prévu le coup? C'est-à-dire que vous étiez dit, si un jour ça doit arriver, il faut qu'on soit prêt?
Ben un peu, parce que notre métier, c'est évidemment l'enseignement à distance, mais aussi, vous l'avez rappelé, le CNED est né de la crise et il se réinvente un peu chaque fois qu'il y a une crise. Et régulièrement, nous sommes interrogés, notamment à l'international, pour des crises sanitaires, des crises environnementales. Et on nous demande de trouver des solutions innovantes. Et on s'est dit, quelques mois avant le mois de mars, c'était en décembre, je crois, on s'est dit, ça serait bien d'avoir une solution un peu pérenne, genre de plateforme dormante qui puisse s'activer automatiquement dès qu'il y a un souci quelque part.
Vous avez une la vision très forte.
Ça s'appelle
fort,
de la chance.
Ça s'appelle de la vision, pas de la chance.
Trois mois avant, vous êtes dit, en cas d'urgence, qu'on dirait que, franchement, quand on a vu ma classe à la maison, on dirait que c'était dans un petit tiroir, caché, tranquillement, et là, tout de suite, hop, j'ai la solution.
Et ben, c'était un peu ça, puisque on avait été interrogé très vite lorsque la pandémie a commencé en Asie. On a eu l'alerte par nos établissements français à l'étranger qui nous ont contactés, puisqu'on est partenaire, en nous disant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Donc, immédiatement, on a répondu très vite. Et moi, je remercie vraiment les équipes du CNED parce que, effectivement, ça a été une mobilisation invraisemblable.
Quel bilan vous en tirez aujourd'hui? Puisque vous le disiez, vous avez lancé ça le 16 mars à une grande échelle. Des millions de familles ont pu en profiter. Quel bilan vous tirez?
Alors, le bilan qu'on en tire, c'est qu'on doit gagner encore en agilité et en innovation. On a des parcours qui sont très adaptés à nos élèves, les élèves qu'on a habituellement, c'est-à-dire les élèves de l'empêchement scolaire. Je crois que là, on s'est adressé à tous les élèves, quels qu'ils soient. Et on a vu qu'on avait besoin d'avoir des choses plus souples, plus agiles, qui ajoutent de l'innovation. Notamment, on est en train de travailler, par exemple, sur des compagnons numériques qui viennent aider les élèves à faire leurs devoirs. On est sur des solutions qui permettent d'apprendre l'oral à distance, de s'entraîner à l'oral, ou des solutions d'expérimentation à distance. Et on voit bien qu'on est en train d'imaginer des choses nouvelles maintenant.
Ce sera pour quand, ça, toutes ces nouvelles technologies? Est-ce que vous travaillez notamment avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour personnaliser les programmes, pour s'adapter à l'évolution de chacun des élèves?
Tout à fait. Alors, Jules et Maya, ce sont des petits compagnons numériques qui sont déjà prêts, qui sont disponibles et gratuits pour tous les élèves de collège. Le travail sur l'entraînement à l'oral, c'est en cours de développement. Et l'expérimentation à distance, par exemple, c'est déjà effectif dans nos parcours scolaires.
Alors, est-ce que ça signifie qu'on ne l'espère pas, hein, mais si on en venait à un confinement total avec fermeture des écoles, on n'espère pas, et pour l'instant, on est l'un des rares pays à avoir su maintenir nos écoles ouvertes, et ça, on peut s'en féliciter. Mais allez, dans le scénario le plus sombre, vous, au CNED, vous êtes prêts avec les outils dont vous venez nous parler, avec les petits compagnons numériques pour nous aider, voilà, pour aider nos enfants, nos élèves à prendre la parole, tout ça, vous êtes prêts pour pouvoir assurer cette continuité, ce suivi pédagogique?
Bien sûr, on est prêt puisqu'on est en train de... On met à jour les programmes régulièrement pour que les dispositifs soient évidemment à jour sur les programmes. Mais je pense que la donne a changé aussi. En mars, il y avait beaucoup moins de solutions. On était un petit peu la solution de recours. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit une solution parmi d'autres. Et moi, je fais confiance aux milliers de professeurs français qui ont eu une imagination extraordinaire pendant la crise et qui se sont organisés et qui vont pouvoir aussi proposer des solutions par eux-mêmes.
Vous dites une solution parmi d'autres, mais est-ce que, parce que vous êtes un organisme public, hein, vous dépendez du ministère de l'Éducation nationale, est-ce que c'est pas un peu idiot de se faire concurrence, alors que quand on a un organisme comme vous, spécialisé justement dans l'enseignement à distance, vous pourriez tout simplement le maître d'œuvre de la plateforme unique?
Non, mais je crois que sur la plateforme, il n'y a pas débat. Mais quand j'imaginais des solutions autres ou complémentaires, ce sont les académies qui s'organisent aussi avec les recteurs, les services de formation académique, qui sont en capacité aussi de proposer des choses. Et je crois qu'il y a des initiatives individuelles qu'il ne faut pas tuer.
Dans ces initiatives individuelles, ça veut dire que vous avez des professeurs qui vous remontent des idées, qui vous disent « Tiens, moi je pense que là, on serait meilleur si on faisait si on agissait sur telle ou telle chose. »
Alors, de toute façon, déjà...
Vous êtes en concertation?
Oui, on a un regard très, très affûté sur le retour de nos usagers, de nos élèves, de nos inscrits et de nos adultes. Hein. C'est-à-dire qu'on fait on a un service de veille très important qui nous remonte les remarques de nos utilisateurs. Et puis, évidemment, on améliore nos solutions, je dirais presque en temps réel, pour être plus performant.
Michel Reverchon-Billot, vous êtes le directeur général du CNED et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et oui, la France bouge, et même dans le secteur de l'éducation. On aime pourtant souvent bien les critiquer, mais on voit à quel point ce secteur s'est aussi adapté à une vitesse grand V, notamment lors du premier confinement, avec notamment notre grand témoin du jour, Michel Reverchon-Billot, le directeur général du CNED, le CNED qui a lancé en quelques jours Ma classe à la maison.
Et accompagner, soutenir les élèves en ce moment, c'est aussi aller dans des quartiers où ces enfants, ces élèves n'ont pas tous des ordinateurs, des tablettes, des parents qui comprennent ce qu'ils font à l'école, donc qui n'ont pas forcément le niveau d'études pour les accompagner. Ainsi, ZUP de Co est né. Bonjour François Bentanane.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de ZUP de Co. ZUP de Co, c'est une association. Vous aussi, vous avez eu la vista, comme on dit, hein, parce que ça existe depuis 15 ans. ZUP de Co, vous vous définissez comme une association, un peu comme le service public du soutien scolaire. Hein. C'est comme ça que vous pouvez vous définir. C'est quoi le service public du soutien scolaire?
C'est une logique qui est que quand vous créez une association, généralement, elle est faite pour aider les citoyens. Et donc, ZUP de Co, on l'a créée pour aider le service public et donc aider ces enseignants qui, tous les jours, accompagnent un certain nombre d'élèves. On est toujours très négatif sur tous ces sujets-là, alors qu'il y a beaucoup de personnes, des bénévoles, des jeunes en service civique, des équipes...
Qui sont prêts à aider.
Qui sont prêts
à aider.
Et qui le font. Et qui le font.
Ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez eu l'idée parce que vous avez dit, il ne faut pas qu'il arrive à tous ses élèves la même chose qui m'est arrivée à moi. Vous avez été, vous le dites, hein, je crois, un exemple même de l'échec scolaire. Et vous auriez rêvé, comme ça, d'avoir des profs qui viennent vous aider, vous dire « Mais si, t'as plein de qualités, ça a peut-être été un poil plus dur pour toi, mais tu vas y arriver. » Et c'est comme ça qu'est né ZUP de Co, je crois.
Exactement. Ça part de ce sujet-là, entre autres, qui est de se dire que vous avez des élèves qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas l'encadrement suffisant pour leur permettre de pouvoir progresser. Et donc, quand vous faites appel à des étudiants bénévoles ou à des jeunes en service civique, managés par une équipe, eh bien vous avez des grands frères ou des grandes sœurs qui viennent vous aider le soir à partir de 16h sur les devoirs ou sur des points de difficulté que vous pouvez avoir.
Alors, dans les prochains jours, vous allez lancer un programme qui s'appelle Home Class, un programme très important et qui vous tient particulièrement à cœur. Vous pouvez nous en parler ?
Tout est parti du fait que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on essaie d'avancer sur l'accompagnement scolaire dans les collèges, puisqu'on intervient principalement dans les collèges. Mmh. Et on voit qu'on arrive très très vite à une saturation, c'est-à-dire à la fois d'accompagnement, d'étudiants proches des collèges, de financement. Alors que le digital que nous avions testé il y a quelques années permet de toucher un enfant quel que soit l'endroit. Car on avait des parents qui nous envoyaient des mails en disant « mon enfant a des difficultés, comment vous pourriez l'aider ?» Et comme on n'était pas implanté dans la ville ou dans le collège, on ne pouvait pas l'aider. Et donc Home Class, c'est un programme que nous lançons là, cette semaine, donc, avec l'objectif de fédérer les acteurs du privé et du public pour pouvoir aider les enfants tous les jours sur leurs devoirs.
Mais comme le disait très bien Elisabeth, vous touchez aussi beaucoup d'élèves pour lesquels il n'y a pas la tablette à la maison, il n'y a pas le bon ordinateur personnel avec une bonne connexion. Est-ce que vous allez réussir à toucher tout le monde ? C'est un tout petit palliatif là du coup.
Alors il y a un point qui est important. Des acteurs associatifs ne sont pas là pour gérer tout le monde, ils sont là pour aider l'éducation nationale à s'organiser, car le temps politique n'est pas le temps humain. On l'a déjà fait avec Devoirs faits, on avait milité pour les devoirs à l'école et pas à la maison.
Temps d'études qui accompagne pour réaliser les devoirs, c'est gratuit et c'est une plateforme mise en place par l'éducation nationale.
Le programme Devoirs faits.
Voilà, Devoirs faits.
Et donc, ce qui fait qu'à partir de là, on a avancé sur un point qui est le cadre. Les enfants ont un lieu où ils peuvent faire leurs devoirs, sinon pas le lieu chez eux. Mais ça, ensuite, il faut le développer. Mmh. Et c'est ce qu'on essaye de récidiver aujourd'hui avec le distanciel, avec le programme Home Class, qui est de dire de quelle façon on peut aider un maximum d'élèves à travers des outils digitaux pour leur dire, mais tous les jours, car le soutien scolaire, c'est une fois par semaine, alors que là, tous les jours, un enfant peut avoir des difficultés sur les devoirs et avoir quelqu'un pendant 10 minutes qui l'aide, il peut avoir un cours en ligne, il peut avoir de l'aide et de l'accompagnement avec différents partenaires et nos bénévoles, et ça permet en fait de ne pas être en dépendance de « je vais attendre une semaine pour avoir un cours et je peux avancer tous les jours ».
Donc vous proposez ces solutions, de pouvoir aider un élève pendant 10 minutes, l'aider pour faire un cours, mais vous ne mettez pas en place, ce que disait Emmanuel, la logistique, entre guillemets. Comment vous arrivez à faire le lien ? Comment êtes-vous sûr que votre solution va pouvoir être mise en place ? Comment vous êtes sûr que l'élève aura donc sa tablette, son téléphone pour pouvoir être suivi par Zubdeco ?
Là, il y a la logique de ce programme Home Class, c'est de faire une action commune avec des associations locales et non pas simplement tout partir de Paris ou d'une grande ville. Mmh. Et donc, dans chaque association, eh bien, on identifie les élèves à travers l'association locale ou à travers les collèges. Ensuite, on a une liste d'élèves en disant « ils ont des ordinateurs ou ils n'ont pas ». Et ensuite, nous avons des partenaires qui proposent de donner des ordinateurs à tous ceux qui n'en ont pas. Et il y a un premier cours à vide, on va dire, où on va faire en sorte de vérifier la connexion, le lien, pour être sûr que l'enfant utilise son matériel.
Vous êtes une très bonne vigie de la situation actuelle, notamment dans les quartiers les plus en difficulté où vous officiez. Avez-vous le sentiment que le décrochage scolaire dont on a tant parlé à l'issue du premier confinement est une réalité et que nous n'arrivions toujours pas à combler ces manques et ces mois sans école ?
Le décrochage scolaire est une évidence quand il n'y a pas l'école, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc
bien évidemment.
Mais la difficulté, elle n'est pas liée...
Mais c'est une des raisons pour lesquelles l'école reste ouverte, c'est que le premier confinement a été dramatique pour une bonne partie d'élèves qui étaient déjà en difficulté à l'école.
Oui, tout à fait. C'est une approche qui est de se dire que vous avez aujourd'hui en France des milliers et des milliers d'étudiants ou de collaborateurs qui veulent s'engager sur un certain nombre de projets. Et vous avez de l'autre côté des élèves et des parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir être aidés. Et donc quand vous rassemblez ces deux sujets... avec des acteurs, des outils et des outils qui permettent de vérifier l'impact de ce sujet-là, eh bien vous avez des très très bons résultats.
Michel Reverchon-Billot, directeur général du CNED, comment faites-vous avec les élèves qui justement n'ont pas d'outils numériques pour assurer ce suivi ?
Alors nous, on a une vision du numérique très particulière, c'est-à-dire qu'on utilise le numérique quand on en a besoin, notamment pour tout ce qui est interactivité, mais on n'écarte pas le recours à des documents papier ou imprimables.
Et pour les accompagner, quand ils ont des difficultés, vous les renvoyez vers des associations comme Zubdeco ?
Non, on a des systèmes de tutorat, que ce soit par téléphone, par chat, par forum, des corrections de copies individualisées, c'est-à-dire qu'il y a un suivi également par nos 1200 professeurs qui sont très au contact de nos élèves, en relation avec les élèves.
Là, ça a été aussi plus compliqué pour essayer de faire en sorte que certains élèves qui bénéficiaient de votre programme Ma classe à la maison ne décrochent pas.
Alors pour Ma classe à la maison, ça a été effectivement plus compliqué puisqu'on estimait que l'accompagnement devait se faire par les professeurs des établissements et des écoles et non pas par le CNED. Ma classe à la maison, c'est une partie de la formation à distance, ça n'est pas la totalité. Donc effectivement, le décrochage, il se s'observer surtout depuis les classes et les écoles.
François Bentanane, comment on fait si on a envie de venir vous aider? Là, si on est jeune, si on est étudiant, qu'on a du temps, puisque certains en ce moment, en plus, ne sont pas en présentiel, comment on fait? Vous en avez besoin en plus, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire que tout l'avantage du projet Home Class que nous lançons, c'est qu'un étudiant, quel que soit l'endroit, on peut avoir un étudiant de Bourges qui va aider un enfant de Lille, donc c'est ça qui est magnifique à travers ces outils-là. Et donc, il faut aller sur le site homeclass.org ou sur le site zubdeco.org et candidater en disant « j'ai envie de donner un coup de main, j'ai envie de donner des cours ». Et donc à ce moment-là, ça nous permettra d'aider le plus d'enfants possible.
Eh bien, chers auditeurs, si vous avez entendu François Bentanane, si vous souhaitez donner un coup de main, n'hésitez pas, ça s'appelle Zup Deco. Merci à vous d'être venu nous présenter votre association.
Et Michel Revers-Chambillon, le patron du CNED, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour, on est en direct avec Elisabeth Assayag dans La France Bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on parle cours à distance avec le meilleur des grands témoins possibles, Michel Revers-Chambillot, qui est le directeur général du CNED. Qui sont les professeurs du CNED? Elisabeth disait qu'il y en avait 1200. Qui sont-ils?
Alors là aussi, c'est une particularité du CNED. Ce sont des enseignants qui ne peuvent plus, pour des raisons de santé, exercer en présence. Et malgré tout, ces professeurs ont de l'excellence, de l'expertise, de l'expérience. Et nous, on leur redonne la possibilité de faire leur métier autrement, en travaillant pour nous au CNED, en travaillant depuis leur domicile.
Donc ce sont des vrais professeurs?
Ce sont des professeurs certifiés, agrégés de l'éducation nationale.
Ce sont des vrais professeurs qui, donc vous venez de le dire, sont excellents. Mais comment faites-vous pour suivre... Pour vous assurer qu'ils suivent bien les programmes, tous les nouveaux outils numériques? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que vous faites en sorte de... Comment vous vérifiez tout cela?
On les forme, c'est-à-dire qu'on les accueille tous les ans. Il y a une rotation tous les ans, puisque ce sont des postes sur des temps limités.
Donc
de
vous les voyez?
À distance, toujours. On organise des classes virtuelles avec eux, on ne les voit pas, puisque beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé. Donc on les accompagne à distance, on les forme à nos outils, et ils ont les cours des élèves, ils les ont en amont, et ont la totalité de nos supports de cours.
Est-ce que vous pensez que demain, alors je déteste le mot que je vais utiliser, mais c'est le mot, paraît-il, qu'il faut utiliser, l'hybridation des cours sera la règle, c'est-à-dire un peu de présentiel, et puis un peu de cours à distance, parce que finalement on se rend compte aussi que les outils numériques permettent un apprentissage plus personnalisé. Chaque enfant peut aller à son niveau. Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir de l'éducation nationale?
Emmanuel Dutheil, c'est pas l'avenir, c'est aujourd'hui.
Parce que là, il y a une crise.
Si je prends l'exemple des propositions du CNED, et ça a été une volonté du ministre, un élève qui ne trouve pas en première une spécialité dans son établissement, puisqu'il y a des spécialités en première, peut faire ses spécialités au CNED. C'est-à-dire qu'il est inscrit dans son établissement pour faire ses spécialités. Il est inscrit au CNED, qui devient maintenant d'ailleurs une académie numérique, c'est ce qu'a souhaité le ministre, pour suivre une autre spécialité.
Prenons un exemple, je suis nantais, je suis dans un lycée public nantais, mais je n'ai pas de prof de breton, j'aimerais faire le breton, je peux le faire par exemple comme via le CNED.
C'est pour bientôt, c'est pour septembre, puisqu'on ouvre 4 parcours en langue régionale, basque, corse, occitan et breton. Mais c'est vrai aussi pour les langues à faible diffusion, je peux être scolarisé dans un établissement rural et faire du japonais avec le CNED. Et je trouve que c'est intéressant d'être inscrit dans deux établissements, un établissement de présence et puis un établissement au sein de l'Académie numérique pour la distance.
Mais c'est le choix de chaque élève et vous êtes obligé de dire oui. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire du japonais parce que je suis dans la campagne de Montluçon, je peux faire du japonais, c'est ça que vous nous dites.
C'est le choix des recteurs dans la carte des formations.
Faites attention parce que votre site internet va exploser derrière l'émission.
C'est dans la carte des formations, c'est à la main des recteurs qui organise la carte des formations sur la trajectoire, mais le CNED permet en fait d'avoir des territoires augmentés.
On assiste en ce moment à une explosion de l'école à la maison. Est-ce que déjà vous pouvez nous confirmer cette tendance? On a l'impression que depuis que la crise est là, certains parents un peu frileux, anxieux, concernant aussi les conditions d'accueil des enfants, ont décidé de faire l'école à la maison. Est-ce que vous le constatez?
Alors, moi, je pense qu'il y a eu une inquiétude pendant la période de crise et nous, on l'a vu parce que des parents sont venus vers nous, non pas pour rejeter l'école de la République, mais simplement pour avoir une réassurance. Donc souvent, c'était l'école plus le CNED.
Et c'est le cas aujourd'hui?
Aujourd'hui, on n'a pas trop de visibilité. On a une légère augmentation de nos inscriptions, mais qui ne correspondent pas forcément à de la classe à la maison. Ça peut correspondre à de l'empêchement scolaire.
Alors, quand on suit la classe à la maison, quel est le rythme pour les élèves qui poursuivent ces cours à distance? Parce qu'on n'est pas en présentiel, on n'est pas, entre guillemets, encadré par un professeur. Comment ça se passe?
Alors, je leur tire mon chapeau parce qu'il faut faire preuve d'une autonomie extraordinaire. Il faut arriver à s'organiser. Donc, nous, on les prend en main aussi pour les habituer à l'enseignement à distance. distance pour organiser leur temps de manière à ce qu'ils puissent suivre et ne pas décrocher. Et on a des éléments qui nous permettent de repérer les signaux faibles de décrochage et de les relancer. Et là, on est en train de développer un coach qui viendra les accompagner en leur disant bah, « Attention, tu n'as pas rendu de devoir depuis 2 semaines, tu n'es pas venu sur un forum, etc. » pour garder ce lien mm-hmm. avec nous.
Pour vous, la crise, et pardonnez-moi peut-être l'expression que je vais utiliser, mais c'est du pain béni. C'est-à-dire que vous avez gagné 5 ou 10 ans dans votre développement numérique et peut-être même dans l'acceptation du numérique au regard de vos institutions. Jusque-là, tous les profs étaient très frileux à ce genre de technologie. Ça a montré que ça a fonctionné et félicitons tous ceux qui y sont arrivés. Mais vous avez gagné 5 ans.
Alors, aucune crise est du pain béni, hein, bien entendu, mais je crois que surtout, on a gagné en visibilité et en légitimité. Et je crois que s'il y a encore quelques temps, avant mars, on était un établissement de la marge, l'enseignement à distance était même quelque chose de très marginal, réservé aux élèves empêchés. Aujourd'hui, l'enseignement à distance a retrouvé des lettres de noblesse et comme un enseignement de pleine dignité et de pleine valeur. Je crois que ça, c'est important.
Voyons un peu plus loin avec vous, si vous voulez bien, Michel Reverchon-Billot. Quel est le taux de réussite quand on passe par le CNED?
Alors, c'est très compliqué de vous le dire parce qu'un élève qui fait le CNED peut faire le CNED pendant toute une scolarité, il peut faire le CNED pendant 1 an, il peut faire le CNED pendant 3 mois. Et si on ne sait pas au bout du compte,
Il n'y a pas de suivi,
mais on ne sait pas ce qui, dans sa réussite,
oui, vous savez pas revient si c'est l'école normale ou si c'est
bon,
l'éducation.
L'année dernière, on est arrivé, je crois, à un peu moins de 80% de réussite au baccalauréat. Donc, on a des réussites. On a des élèves brillantissimes qui passent le concours général. On a toute une variété d'élèves. Parce
si
que
on
notre
doit faire
public
la moyenne de l'élève, c'est quoi le profil type de l'élève du CNED quand on n'est pas en crise, quand on n'y a pas le Covid? Il paraît que ça existait, il paraît qu'un jour on retrouvera ces périodes normales.
Il n'y a pas d'élève type au CNED, puisqu'on peut être
parce
au CNED.
Parce prendre
pour
la
plus...
langue, on peut juste le prendre pour le japonais.
On peut prendre juste pour le japonais. On peut être enfant de l'itinérance, enfant du voyage, et on vient au CNED parce qu'on ne peut pas être scolarisé. On est enfant malade et on vient au CNED parce qu'on a un parcours de vie compliqué. On est au CNED parce qu'on part avec ses parents à l'étranger
parce
et
qu'on
veut garder
artiste,
un contact.
Parce qu'il y a plein de solutions.
Voilà, il y a plein de solutions. Donc on a une grande
parce
variété d'élèves.
Parce qu'on est adulte et qu'on a envie de continuer à se former.
Exactement, notamment. Beaucoup de femmes en reprise d'études viennent au CNED. Ça, c'est notre public majoritaire pour la formation professionnelle.
Alors, impossible de bien étudier sans le matériel adéquat. Hein. À la France Bouge, on prend le temps de découvrir des entreprises françaises qui ont su traverser les crises, qui sont toujours là. Aujourd'hui, nous allons partir à Annecy, une usine qui fabrique depuis plus de 70 ans des produits pour les écoliers. Des gommes, des compas, des taille-crayons. Et aujourd'hui, c'est le seul acteur du marché à concevoir et fabriquer le contenu de nos trousses d'école.
On aurait presque pu en faire une devinette avec tous les indices que vient de vous donner Elisabeth. C'est Maped, la saga du jour, racontée par Dora Nana.
Europe 1, la France bouge, la saga.
À son nom, on pourrait la croire anglo-saxonne, et pourtant c'est bel et bien une entreprise française. Maped, pour manufacture d'articles de précision et de dessin, une marque qui fait partie de notre quotidien, gomme, taille-crayon, règles, ils ont un jour ou l'autre traîné dans le fond de notre cartable, dans nos trousses ou sur nos bureaux. Et le premier produit qu'ils vont fabriquer, ce sera le compas en laiton. On est à Annecy, en Haute-Savoie, en 1947. Antoine Lacroix, DG de Maped et petit-fils du fondateur.
À l'époque où le compas est un instrument essentiellement technique, qui est vendu à des architectes, des maquettistes, des graphistes, beaucoup à des étudiants aussi en ingénierie, par exemple, pendant près d'une cinquantaine d'années, ce sera la principale activité de Maped.
Jusqu'à devenir numéro un mondial du compas. Et ce n'est qu'au milieu des années 80, avec l'arrivée de la deuxième génération, Jacques Lacroix, qu'ils vont élargir leur gamme et se diversifier avec la fabrication de ciseaux, puis de gommes, et ainsi passer à la vitesse supérieure.
Et à l'époque, les gommes sont fabriquées comme des petits pains, c'est presque de la boulangerie, avec un process très artisanal. C'est à l'époque mon père, Jacques, qui va fortement automatisé la fabrication des gommes. Et aujourd'hui, on a à Annecy, en Haute-Savoie, 4 extrudeuses qui font chacune à peu près 10 millions de gommes. C'est des marchés très bataillés. Pour autant, on parvient aujourd'hui à être compétitif partout dans le monde avec ces gommes qui sont fabriquées à Annecy.
Avec une double stratégie, dès les années 90, ils vont racheter petit à petit beaucoup de leurs fabricants en les intégrant au groupe. Et dans le même temps, ils s'internationalisent. Italie, Chine, Argentine, Mexique, Brésil. Ils vont créer ainsi 20 filiales et 5 sites de production. Une société qui a doublé sa taille en 10 ans.
On diversifie très fortement les activités, c'est presque une nouvelle activité tous les 2 ans, donc on devient peu à peu un leader sur le taille-crayon, sur les activités de bureau aussi, l'agrafage, la perforation, les accessoires d'organisation. Donc on a aujourd'hui 5 sites de production, en gros 3 produits sur 4 qui sont vendus par Maped sont fabriqués sur nos sites.
Un secteur très concurrentiel qui les pousse à innover en permanence. Avec 50 brevets en activité, ils lancent 60 nouveaux produits chaque année et en revisitent certains.
C'est vrai qu'on a vocation sur des produits parfois galvaudés ou peu différenciés. On veut nous amener de la valeur d'attrait, des petites fonctionnalités hyper sympas qui permettent de faciliter la vie de l'enfant ou de l'utilisateur. Vous avez des tailles-crayons avec un bouton poussoir qui éjecte la mine quand elle reste coincée, ou des petites trappes anti-poussière pour ne pas salir la trousse. Donc ça nous permet aujourd'hui de conserver un leadership fort en dépit de la concurrence, en dépit de la marque distributeur, en dépit de, effectivement, de la pression sur les prix qu'on subit tous dès lors qu'on travaille sur ces marchés de grande consommation.
Face à une école qui se digitalise, la troisième génération prépare aujourd'hui l'avenir et mise sur d'autres leviers de croissance comme le marché du loisir créatif. MAPED, c'est 200 millions de chiffre d'affaires en 2019, mais une année 2020 qui s'annonce plus compliquée avec une crise qu'ils espèrent voir gommer au plus vite.
Un joli jeu de mots de la part de Dora Nana de l'équipe de La France Bouge. On espère bien justement mettre un gros coup de gomme sur cette année 2020 pour que cette année 2021 soit beaucoup plus agréable. Michel Reverchambillon, directeur général du CNED, vous êtes donc notre grand témoin du jour. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, le CNED est un peu tout seul dans les pays du monde à exister comme ça, comme solution publique. Est-ce que vous ne pourriez pas vendre vos solutions à l'étranger? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller, notamment dans les pays francophones, vendre le CNED?
Alors aujourd'hui, on a des pistes de développement à l'international. Les deux premières, les plus évidentes, c'est la scolarisation auprès des élèves qui sont dans des établissements français à l'étranger. Ça, c'est assez simple et on le fait. On a 20 000 élèves à peu près. La deuxième, on est en train de développer des BTS à l'international pour développer le français comme langue de l'employabilité, montrer à des jeunes et étrangers qu'on peut travailler en parlant français. Puis la dernière piste, c'est de promouvoir notre école d'ingénierie de la formation à distance pour déployer des modèles de formation à distance dans les pays francophones, pour imaginer une sorte de franchise CNED à l'international. Et ça, on est en train de travailler sur ce sujet-là.
Bien, on voit que vous avez plein de bonnes idées, Michel Reverchambillon, le directeur général du CNED. Vous restez avec nous jusqu'à 14h parce que vos bonnes idées, vous allez peut-être les donner à la personne qui va venir exposer son projet d'entreprise. Vous allez challenger un jeune entrepreneur parce que la France bouge. Et bien oui, elle donne chaque jour sa chance à un projet qui est en train de voir le jour.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
J'espère que vous êtes comme nous et que vous passez un bon moment en direct sur Europe 1. En tout cas, c'est parti pour les trophées Europe 1 à la France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. D'abord, convaincre notre partenaire, CCI France. Attention, Nathalie Carré est là. Et convaincre aussi notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est Michel Reverchambillon, qui est le directeur général du CNED.
Et c'est le moment d'écouter un entrepreneur qui se lance, qui a des idées pendant le premier confinement, comme vous. Xavier Troube, bonjour.
Merci de m'accueillir.
Mais merci à vous, d'avoir déposé votre candidature pour les trophées Europe 1 La France Bouge. Vous avez 50 ans, je précise l'âge, oui. Non pas pour dire que vous avez 50 ans, c'est pour dire que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat, et ça c'est important, on vous le dit, on le voit chaque jour dans La France Bouge. Vous êtes Lillois, Xavier, vous êtes le fondateur des Planches Brutes. Brutes, Troube, c'est fait exprès,
Trube,
j'imagine.
Brutes, oui, c'est l'anagramme, effectivement.
Troube, Brutes. Des planches de découpe 100% françaises. Votre idée est née du confinement, du premier confinement, parce que, comme beaucoup d'entre nous, vous avez passé beaucoup de temps dans votre cuisine. Ainsi est née les planches brutes. Racontez-nous, c'est parti pour votre pitch. Vous avez une minute.
Eh bien, effectivement, en mars dernier, en plein confinement, mon entreprise d'événementiel balayée par la Covid, j'ai passé pas mal de temps en cuisine, comme vous sans doute. Et là, je me suis rendu compte que les planches que j'avais autour de moi étaient soit en bambou, en bois exotique, en bois collé ou pire en plastique. Et en plus, fabriquées très très loin de chez nous. Alors, j'ai planché sur les planches brutes. Et j'ai créé donc cette marque qui est issue donc de bois nobles des Hauts-de-France, des bois massifs non collés, et ensuite des planches qui sont façonnées en atelier solidaire d'insertion près de Lille, et le tout emballé dans un joli pochon en lin brut. Donc j'ai dessiné une quinzaine de modèles, à la fois de découpe, et puis pour présenter apéritifs, tapas, charcuterie, fromage, dessert. Et puis bien sûr, j'ai dû créer un site que j'ai fait tout seul, qui s'appelle planches-brutes.fr. Et je vous invite maintenant à passer de la parole aux actes, à savoir que vous, avec cette planche, vous allez acheter un objet à la fois durable, écologique et solidaire.
Voilà. Eh ben, bravo.
En tout cas, c'est convaincant, parce que c'est vrai qu'on a tous des planches, elles sont parfois en plastique, on ne sait pas d'où ça vient, là au moins, il y a une valeur sûre, elles sont très jolies, si vous nous suivez sur Europe1.fr en direct, vous pouvez les apercevoir, elles ont un petit ruban bleu, blanc, rouge.
Tout est fait dans le Nord, tout est fait à moins de 50 km autour de l'atelier. Le bois vient effectivement des Hauts-de-France, certifié ONF.
Moi, je vais faire mon casse-burette, je vais quand même donner le prix, puisque à chaque fois, tout le monde oublie de donner le prix.
C'est important.
46 euros pour la moins chère, et ça peut aller jusqu'à 110 euros pour la plus grande.
Mais c'est de la qualité. Nous, on se dit que la qualité a un coût. Xavier, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bah, elle se marre.
Bonjour. Mais casse-burette, qu'est-ce que vous qui voulez de me marrer?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais Emmanuel, ça vient, ça, cette expression.
Dans ma famille, on parle comme ça.
Ah bon, et ben, on les embrasse en tout cas. Alors, Nathalie Carré, c'est notre experte en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Elle a deux, trois choses à vous dire, Xavier. Les forces et les faiblesses des planches brutes.
Alors, en plus, si vous avez fait votre site tout seul, il est vraiment joli. Les photos donnent envie. Vous mettez vos produits en valeur en les faisant vivre avec des exemples d'apéro. Excellente idée de donner des noms à vos planches, hein, des noms qui signifient quelque chose. Ça donne vraiment un petit plus à vos produits.
Qui est ici ?
Ça, là, s'appelle Lavallière.
Lavallière.
Okay, comme une
joli.
Grosse cravate.
Allez-y,
ah,
Nathalie.
Comme une grosse cravate. Mm. Et puis, on voit bien la passion que vous avez pour le bois et pour votre région. Et ça sent au travers de votre histoire que vous racontez sur votre site. Moi, je ne mettrais pas de points améliorés, mais plutôt des suggestions. Les planches, effectivement, Emmanuel a dit, vont de 46 euros à 110 euros, ce qui reste quand même très cher pour un particulier. D'autant que, notamment en tant que femme, on aime bien changer de temps en temps notre vaisselle qui est destinée aux apéros dînatoires. Du coup, vous pourriez peut-être vendre plus qu'un produit et vendre un concept. Je m'explique. Vous êtes plusieurs
avec
jeunes entreprises.
Avec dedans ou quoi?
Mieux que ça.
Je vous connais.
On va faire du cross-selling. Vous êtes plusieurs jeunes entreprises à proposer des produits Made in France de très belle qualité autour du thème du repas entre amis. Mmh. On a eu les épices commis la semaine dernière, des spiritueux sans alcool, on a eu des bocaux claques pour tartiner l'apéro, etc. Vous serez certainement plus fort ensemble à vendre un concept genre la popote des amis Made in France ou l'apéro Made in France, plutôt que chacun individuellement vos produits Made in France très beaux, mais qui restent malgré tout assez
chers. Donc ce que vous
lui
conseillez, c'est de créer une sorte de plateforme avec d'autres, par exemple de ceux que vous avez cités qu'on avait reçus ici à La France Bouge, pour créer un univers, c'est ça, pour
un
créer
univers.
Exactement.
Oui.
Effectivement, beaucoup de synergies possibles dans ces moments conviviaux qu'on a un petit peu perdus ces jours-ci, mais qu'on va très vite retrouver, j'espère. Et effectivement, on peut imaginer des partenariats importants avec effectivement du vin, par exemple.
Mmh. On pourrait retrouver vos planches chez des cavistes.
Exactement. Dès que les bars à vin seront ouverts, c'est idéal pour présenter des charcuteries,
avant,
du fromage.
Parce qu'elles sont belles.
Je ne le fais pas dire.
Je vais me tourner vers notre témoin du jour, Michel Reverchon-Billot. Donc là, vous mettez votre casquette de patron. Hein. Oui. Si Xavier venait vous voir pour vous présenter les planches brutes, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller?
Déjà, moi, il y a deux choses qui me plaisent beaucoup dans ce que propose Xavier. C'est qu'il s'intéresse comme nous à la qualité et à la réaction des clients. Je crois que ça, c'est fondamental. Et cette réaction des clients, si j'avais un conseil à lui donner, elle doit aller plus loin que la satisfaction, elle doit aller à la recommandation. C'est-à-dire, est-ce que je suis tellement content que je recommande la planche à mes amis? Et j'ai trouvé que la réaction de la CCI sur cet univers à créer, moi, me semble extrêmement intéressant, parce que c'est dans les univers qu'on fait de la recommandation aux autres. Et ce que j'ai apprécié aussi chez Xavier, mais il ne l'a pas dit, c'est qu'il, pour le confinement, il avait créé des planches pour deux. Et je trouve que c'est pas mal, parce qu'il n'est pas tombé dans la déprime totale de faire des planches pour un.
Ouais,
mais
c'est dur,
c'est plutôt enthousiasmant.
On partage.
Eh bien, on partage en tout cas les planches brutes. Merci à vous, Xavier.
Oui, hein, BRU tréma sur le U.
BRU tréma T. Merci à vous, Xavier Trub, TRU tréma B. Vous êtes donc le fondateur des planches brutes. On vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup.
Et Nathalie Carré, on vous dit à demain. Si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien, c'est simple. Vous envoyez votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge. Michel Reverchon-Billot, directeur général du CNED, vous restez encore avec nous quelques minutes. On va passer dans un instant un coup de fil à une entreprise qui tente de faire du bien à ses salariés.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec Michel Reverchon-Billot, le directeur général du CNED.
Alors, demain au travail, mais en avant, ces entreprises qui mettent tout en place pour améliorer le bien-être et la qualité de vie de leurs salariés. Aujourd'hui, nous passons un coup de fil dans une entreprise que nous connaissons tous. Hein. Nous passons un coup de fil chez Orange. Bonjour Stéphane Fernand.
Bonjour à
vous
tous.
Vous êtes là? Bon, très bien, on est ravis de vous avoir. Vous êtes le directeur RSE immobilier chez Orange. 90 000 salariés en France, 350 pour la partie immobilier. Moi, je vous avoue, je ne savais pas qu'il y avait une partie immobilier chez Orange avant de préparer cette émission. L'immobilier à Orange, c'est une fonction support, c'est-à-dire que vous avez un client, c'est Orange, et vous vous occupez de loger la partie bureau, mais aussi la partie technique. Et vous, depuis 2018, vous proposez à vos équipes un challenge autour de l'environnement via une application. C'est quoi ces challenges?
Le but de cette chaîne.
Oui.
Oui, je vous entends, pas de problème. Le but de cette challenge, c'est de sensibiliser un maximum les collaborateurs aux enjeux du développement durable, en les fédérant autour d'une application et en... J'ai un retour.
Nous, on vous entend très bien, mais c'est toujours le plus comique. C'est toujours avec les opérateurs téléphoniques qu'on a la plus grande difficulté à opérer une liaison. C'est, rassurez-vous, c'est toujours comme
ça. Et nous, ça nous rassure. Hein. On est contents quand même. On se dit que ça ne se passe pas que chez nous, ça se passe même chez eux.
Alors, attends, façon très concrète, comment vous aidez ces salariés à avoir cette sensibilisation, cette sensibilité environnementale?
Le but, c'est de les faire fédérer, donc échanger autour de cette application, donc par rapport déjà à des éco-gestes. Donc, on les sensibilise véritablement à réfléchir donc à leur comportement donc au quotidien.
Oui, sur plein
Ensuite,
de thématiques.
On a des quiz, plein de thématiques. Voilà, donc on a une grosse thématique par mois. Ensuite, on a des quiz pour tester les connaissances donc de chacun. Donc, encore une fois, sur les différentes thématiques. Et ensuite, donc, cette plateforme permet des remontées d'idées que l'on classe. Hein, donc, c'est très collaboratif. Hein, donc, chacun vote pour ses idées. Ça met en haut de panier les meilleures idées. Et il y a un agora aussi qui permet donc, à chacun d'échanger sur nos bonnes pratiques.
Et est-ce que concrètement, ça a changé les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez du coup des collaborateurs qui vous disent on ne veut plus ça? Et même vous avez écarté des choses qui n'étaient pas assez écologiques pour avancer?
Alors oui, ça, tout à fait, ça a donné des résultats. Donc, on a pu voir. Alors, on est très focalisé sur la partie énergie hein, cette année. L'année prochaine, on élargira sur la partie environnementale. Sur la partie énergie, ça nous a donné beaucoup de résultats sur la facture, sur la facture énergétique et sur le comportement de chacun donc au bureau. Alors, au bureau et cette année aussi, donc à distance, hein, cette appli digitale a permis d'échanger sur les bonnes pratiques sur chacun de nos sites.
Et ce qui est très intéressant et que vous n'avez pas forcément souligné, c'est que des talents sont révélés parmi les équipes. Ce ne sont pas que seulement des managers. Et ça aussi, ça fait du bien à vos équipes de voir qu'il y a des talents comme ça qui émergent au détour d'une application et de challenge.
Tout à fait. Donc l'application, c'est une gamification, donc ça permet à chacun de gagner des points. Et on voit apparaître effectivement donc des personnes qui sont engagées donc fortement donc dans cette application et qui emportent l'ensemble donc des occupants de son bâtiment. Et on détecte du coup des ambassadeurs qui ont la fibre qui permettent donc de créer des échanges pour chacun des occupants.
Merci à vous Stéphane Fernand, vous êtes le directeur RSE immobilier chez Orange. Chez vous, on challenge les salariés sur des thématiques environnementales et c'est ça aussi, la France bouge, hein, c'est de faire en sorte que les entreprises changent et s'améliorent.
Merci à vous Michel Reverchon-Billot, le directeur général du CNED, de nous avoir accompagné toute cette heure sur Europe 1.
Et à demain Emmanuel, on va se retrouver à 13h, nous parlerons de quoi demain?
Eh bien on sera avec Michel-Édouard Leclerc, comment la grande distribution s'adapte avec ce nouveau couvre-feu national, qu'est-ce que ça change pour eux?
Eh bien à demain, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.